Alors, si vous voulez, oh, il y a de l'écho, mon. C'est normal. C'est comme certaines garanties d'auto là, qui ne marchent pas, puis finalement, ça marche. C'est normal. Hey, mais je m'entends là, je m'entends partout. On ne peut pas régler ça, Mario? Alors, il faut l'énervant, excusez-moi. 1 Pierre, ouvrez vos Bibles là. 1 Pierre, chapitre 1. Je ne vois pas ici mon PowerPoint. Mais là, il ne faut pas que ça soit ça non plus, là. Il n'est pas. OK, je sais. Il faut que je le mette plein écran. Excusez-moi, hein, la technologie puis moi, c'est deux affaires qui ne marchent pas ensemble. OK, ça, c'est bon. Bon, on va commencer. Mané, merci de votre patience. Écoutez, je vais vous présenter un Joe. Son nom de famille, c'est Blow, Joe Blow. Et puis Joe, lui, il travaille sa construction, comme vous pouvez voir. Et puis, il endure le chaud l'été. C'est tough. Il endure le froid l'hiver. Tu sais, on voit ça des gens, des fois, qui travaillent sa construction. Là. Moi, où c'est que je suis installé, ma maison, là, il faisait moins 25 quand il faisait la toiture. J'étais bien content d'avoir une autre sorte de job que ça. Et il endure la douleur. Mais Joe, il a un projet. Et ce projet-là, ça le stimule terriblement. Il est encouragé par ce projet-là. Ça fait déjà 2 ans, peut-être, qu'il ramasse ses sous. Puis, il a le projet, avec sa femme, de fêter son 40e anniversaire de mariage dans une belle croisière. Il pense être capable de le faire d'ici une couple d'années parce qu'il ramasse ses sous. Et comment, pourquoi Joe il est si encouragé de travailler puis qu'il t'offre toute cette misère? Mais la raison de base, c'est que Joe pense à son voyage. Il pense à ça, puis il sait que ça vaut la peine parce qu'il y a un beau projet avec sa femme. Puis moi, j'ai envie d'y aller avec lui. Alors, le message de ce matin, le projet de Joe est une belle image du message de ce matin parce que c'est comment garder notre espérance vivante. Ça, c'est le thème de mon message, c'est le titre de mon message, mais c'est aussi le premier verset que j'utilise comme intro. Alors, on lit, s'il vous plaît, 1 Pierre 1, juste le verset 13 dans un premier temps. Gardez vos Bibles ouvertes parce qu'on va lire ce texte-là là, en 3-4 morceaux. C'est pourquoi, verset 13, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, si on posait la question à Joe et qu'on lui dirait, comment tu fais pour être encouragé? Sans doute, Joe vous dirait, moi là, je me discipline à penser à ça à toutes les fois quand je me lève le matin. Et puis quand que je commence mon après-midi, que j'ai envie d'aller me coucher, je pense à ça, puis je continue. Donc, il se discipline pour penser à son projet. Et je pense que c'est l'idée là que le Saint-Esprit nous encourage à faire ce matin avec déjà ce verset 13-là et qui pourrait être rendu de la façon suivante. Concentre-toi. Garde le focus. Ne perds pas de vue ta raison de vivre comme chrétien. Pense à ta destination finale. Ou encore, une autre façon de le dire serait, garde-toi réveillé, prêt pour l'action. Ne te laisse pas distraire. N'oublie pas le principal. Ou encore, garde le focus sur ton espérance et l'immense privilège ou la grâce qu'un jour le Seigneur revient. Hein, c'est marqué, lorsqu'il apparaîtra. Bien, c'est ça l'espérance du chrétien. Alors, le chrétien possède une espérance qui devrait littéralement le rendre optimiste, le rendre joyeux. Le motiver même dans les pires épreuves, l'espérance du retour du Seigneur est présentée comme un puissant motif dans ce verset 13-là pour notre vie de tous les jours. Autrement dit, le retour du Seigneur, ce n'est pas juste dans les livres de théologie, c'est une espérance qui devrait être cultivée jour par jour. Et c'est ça qui nous aide à vivre le présent en relation avec l'avenir qui va bientôt se manifester, on le sait. Et puis ça, c'est le point principal. Alors, comme Joe garde les yeux sur son voyage, nous, on doit garder les yeux sur notre espérance. Alors, le plan que je vous propose ce matin, c'est 4 points. D'abord, en ayant un mode de vie conséquent, ça va être les versets 14 à 17, en considérant le prix élevé qui a été payé, les versets 18 à 21, en vivant l'amour qui en découle, versets 22 à 25, et finalement, en appliquant les moyens pour que ça marche. Alors, on va prier encore, si vous voulez bien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et Seigneur, à travers ce texte des Écritures, tu as un message, peut-être pas exactement le même pour chacun d'entre nous ce matin, mais il y en a un, Seigneur. Si ce n'est pas un, c'est peut-être plusieurs. Mais Seigneur, que ce qu'on va voir ensemble ce matin puisse vraiment, comme ça a été déjà demandé, nous atteindre, toucher nos cœurs et qu'on puisse avoir avec ça au moins du gaz jusqu'à la prochaine fois où on va trouver dans ta parole plaisir, encouragement, stimuler de telle sorte, Seigneur, que notre espérance ne sera jamais ternie. Cette vision, Seigneur, d'un jour, du jour où on va être dans ta présence, où tous les peuples seront réunis, où, comme ça a été dit ce matin, la guerre, la mort, la souffrance ne sera plus. Toute larme sera essuyée de nos yeux, Seigneur. On a tellement, mais tellement hâte de ça. Seigneur, merci. Merci de nous toucher maintenant, en ce lieu, ce matin. Amen. Alors, en ayant un mode de vie conséquent, on va lire les versets 14 à 17. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si ou puisque vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ou de votre pèlerinage, comme disent d'autres versions, sur la terre. Alors, en ayant un mode de vie conséquent, l'apôtre va dire une vie changée, hein? Ne vous conformez pas au siècle présent. Pas au siècle présent, mais ne vous conformez pas à ce que vous viviez. J'ai tendance à mêler Romains 12, 1 et 2 avec celle-là, hein? Vous aussi. Hein? Normal, vous n'êtes pas bizarre. Sinon, moi, je le serais. Alors, ne vous être différent d'avant. Pas avant, c'est pas pareil comme après. Il y a un frère chez nous qui a beaucoup de difficultés, mais il est malade. En tout cas, bref, certains pourraient dire peut-être que fait pitié un peu. mais il aime le Seigneur. C'est, il aime le Seigneur, entendez-vous? C'est quelque chose de le voir aller. Et lui, là, il, à un moment donné, Dieu il a parlé très, très fort. Il n'arrête pas de me le raconter. Puis il dit, à un moment donné, Dieu il a dit, tu ne seras jamais plus le même. Et lui, il a appelé son père à l'époque, ça fait une vingtaine d'années, puis il dit, je veux te rencontrer, papa, puis je veux te dire quelque chose d'important. Puis il l'a vu, il l'a rencontré, puis il a dit, papa, je te le dis, là, je ne serai plus jamais le même, parce qu'il s'était converti. Il avait dit à son père, il avait comme pris un engagement semi-public à son, devant son père pour dire, papa, je ne serai plus jamais le même, parce que Dieu y avait dit, tu sais, je ne dis pas s'il a entendu une voix, mais tu sais, c'est venu à son cœur très, très fort. Jamais plus tu vas être le même. Puis il y avait un passé qu'il fallait qu'il soit changé. Ça, c'est, je vous le dis. Alors, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne pas être formé, ne pas être façonné, modelé, influencé, caractérisé par les convoitises qui mènent le monde, les convoitises qu'on avait autrefois. Et avant d'être chrétien, on était dirigé par notre nature pécheresse. Et là, quand on dit ça, on a tendance à penser, ben oui, la fornication peut-être, ou le vol, le mensonge, puis ça, c'est vrai aussi. Mais on ne pense pas souvent comment nos vies étaient dirigées par des fois la jalousie peut-être, ou l'envie, ou toutes sortes de péchés. Tu sais, quand j'écoute le monde parler, là, mettons, je suis dans un Tim Hortons, puis là, j'entends la conversation à côté, puis des fois, j'entends des affaires, je me dis, ils vivent pour se venger, ils vivent pour montrer qu'ils ont raison, ils vivent pour se faire justice, mais comprenez-vous que ce n'est pas ça à quoi nous, on est appelés. C'est important de se le rappeler. Avant d'être chrétien, on n'était que dirigé par notre nature pécheresse. Maintenant, on est racheté de la vaine manière de vivre qu'on a héritée de nos pères. Ça, c'est dans le verset suivant, mais le thème par rapport à ce qu'on est en train de regarder, c'est le même. Darby va dire « comme des enfants d'obéissance ». Parce que le point, c'est que le croyant devrait pas juste être obéissant, il devrait avoir une attitude, vivre dans l'obéissance. C'est un peu différent dans le sens que ça devrait être une caractéristique de chrétien. Je me rappelle, il y a une dame chez nous qui n'est pas très sûre d'elle dans la vie. Là, tu sais, c'est une dame qui a beaucoup d'hésitations, puis elle s'est convertie déjà 25-30 ans. Puis je me rappelle au début, quelques années après le début de sa vie chrétienne, elle était venue me voir, puis elle a dit, « François, elle dit, j'ai-tu le droit de faire ça? » Moi, c'est sûr que quelqu'un qui me demande ça, c'est peut-être pas un signe de maturité, mais un signe du désir de plaire au Seigneur ou de ne pas lui déplaire. Et ça, ça devrait nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Puis, il y a une vie sainte, des versets 15 à 17 qu'on a déjà lus, hein? Une vie sainte, puis il y a deux éléments là-dedans qui se ressemblent et qui se rejoignent. Vous serez saints car je suis saint. C'est le Seigneur qui le dit. Ça fait référence au message que Moïse a reçu de la part de Dieu, pas juste au buisson ardent, mais on le voit ailleurs. Aussi que Dieu s'est révélé dans Lévitique 19, entre autres, il dit ça à Moïse. Et Dieu veut qu'on vive en communion avec lui. Il veut qu'on soit sanctifié. Il veut refléter que notre vie maintenant doit être conforme à ces caractéristiques de Dieu qui sont la sainteté. Encore faudrait-il définir ce qu'est la sainteté. Je ne ferai pas ça ce matin, mais on est clairement appelé à vivre dans la sainteté. Je vous dis en passant, une vie sainte confirme l'expérience authentique de la nouvelle naissance. Hein? On reconnaît l'arbre à son fruit, nous dit le Seigneur Jésus. Et une deuxième raison qu'on retrouve au verset 17, qu'on a lu, mais je relis le verset 17. « Et si vous invoquez comme Père ou puisque c'est important, ce n'est pas un si conditionnel, c'est un si qui confirme la chose, il parle à des chrétiens. Et si vous invoquez donc comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Si je le dis en François courant, ça c'est une nouvelle version de Bible, je le dirais de même, vous prétendez en priant avoir Dieu comme père. Parfait, les amis, c'est bien, mais pensez au fait que votre père, là, il va juger un jour. Puis non seulement il va juger, quand je dis juger, je ne dis pas condamner, évaluer le tribunal de Christ. Et ça va se faire d'une façon juste et équitable. Au tribunal de Christ, quelqu'un a déjà dit, puis je suis d'accord, qu'il n'y aura pas de place pour la grâce dans l'évaluation. En relation avec ce que tu auras fait ou que tu n'auras pas fait. C'est ça le tribunal de Christ, si vous avez le topo global de ce que c'est. On ne mérite pas d'être sauvé, on s'entend. Puis on ne mérite pas d'avoir des récompenses, on s'entend. Mais Dieu va nous en donner sur la base de ce qu'on aura fait et non de ce qu'on aura voulu faire. Hein? Alors là, l'invitation, c'est de se conduire avec crainte. Deuxième point, c'est considérant le prix élevé qui a été payé. Comment qu'on fait pour garder notre espérance? En considérant le prix immense qui a été payé. Puis là, on lit les versets 18 à 21. Vous savez, verset 18, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Racheter, c'est le mot clé que je veux souligner aujourd'hui sur ces versets-là. Ce mot, ça signifie monnayer une libération contre une rançon ou délivré par le paiement d'une somme. Et l'Évangile, c'est clairement Christ, puis là, je ne vous l'apprends pas, mais Christ qui a payé la rançon de nos péchés parce que nous méritions tous la mort. Et ceux qui s'intéressent un peu à la théologie, il y a des grandes questions qui ont été posées au fil des siècles. À qui Christ a payé la rançon? À Dieu? Savez-vous qu'il y en a qui pensent que c'est au diable? Ben oui, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a qui pensent ça. Il y en a qui pensent ça. Lisez les livres de théologie, vous allez voir les différentes définitions du rachat et à qui le rachat a été payé, le prix, la rançon, à qui elle a été payée. Et c'est clair que c'est à Dieu. Je ne voudrais pas vous induire en erreur là, puis penser que c'est pas si pire, ça a de l'allure, le diable. Non. Dieu ne doit rien au diable. Okay? Parce qu'il y a quand même des versets qui disent des choses qui pourraient nous amener à penser ça, mais on n'est pas là du tout. C'est à Dieu que Christ a payé la rançon pour nos péchés. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne réalise pas l'importance de la croix, bien, il vous manquez l'essentiel. Hein? C'est pas compliqué. Je veux dire, si vous n'avez pas saisi l'importance de la croix, c'est parce que vous n'avez pas compris l'essentiel même du christianisme. Compliqué. Maintenant, le sang précieux de Christ, nous dit l'apôtre Pierre. Pourquoi le sang? Je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose, mais c'est quand même important qu'on réalise ce que le sang représente. Il y a même certaines traductions de Bible qu'on appelle à équivalence dynamique, des traductions à équivalence dynamique, où on va dire, plutôt que le sang de Christ, on va dire la mort de Christ. Et j'aime pas ça, parce qu'on perd le lien avec l'Ancien Testament, le sang qui devait être versé, etc. Mais quand même, il faut dire que c'est vrai que quand on parle du sang de Christ, on parle de sa mort, parce que quand le sang est versé, la mort est effective. Et les sacrifices, c'était le principe où on tuait l'agneau ou l'animal, et un coup qui était saigné, bien là, c'était le constat de la mort. Et si, par exemple, puis là, je vais dire une niaiserie, là, si, mettons, le soldat qui était à côté de la croix, il aurait été éclaboussé par le sang du Christ, est-ce que vous pensez qu'il aurait été sauvé? Donc, ce n'est pas le sang qui lave nos péchés, c'est la mort de Christ qui lave nos péchés. On se comprend? Le sang de Christ est une image très, très forte qu'on ne devrait certainement pas mettre de côté. Oh non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais fondamentalement, le sang de Christ, c'est de la mort de Christ dont il est question. Alors d'ailleurs, si Jésus aurait donné du sang sur la croix, il aurait versé une partie de son sang sans mourir, est-ce qu'on serait sauvé? Donc, ce n'est pas le sang dans le sens, le liquide rouge qui sauve, mais la mort de Christ sur la croix qui sauve. Alors, le sang de Christ est une image très forte de ce que c'est le sacrifice de la croix. Et on sait que Jésus, il se présente, c'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, avec son propre sang. Il y en a qui pensent qu'il arrive avec un bol à soupe, là, puis avec du sang dedans. Ce n'est pas l'image, je pense, qui doit être comprise. C'est le fait de « je viens et j'ai le certificat de décès. Je suis mort pour ces pécheurs-là. Là. Je suis mort pour eux. » Alors, comprenez-vous la mort de Christ. Maintenant, pourquoi le sang de Christ est-il précieux? Parce que Pierre, il dit « par le précieux sang de Christ ». Ah, OK, c'est intéressant. Bien, la première raison, c'est que le sang venait d'une victime parfaite. Parce que Jésus, on le sait, était innocent. Et il était innocent parce qu'il ne pouvait pas, sans être innocent, payer pour nos péchés. Il fallait que Jésus soit pur, un agneau pur et sans tache, pour s'offrir à Dieu. Mais il y a un autre problème. C'est que si, par exemple, Jésus aurait été un homme ordinaire, sans péché, que Dieu aurait, je vais dire, créé, puis il serait mort pour nous. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait pas mourir pour Denis et Aline. C'est où Aline? Mettons, moi, je serais innocent, puis je serais prêt de mourir pour toi, Denis, ou toi, Aline. Bien, il va falloir que je choisisse, parce que je ne vaux pas deux, moi. Je vaux un. Comprenez-vous? Alors, pourquoi d'abord le sang de Christ? Bien, savez-vous quoi? Parce que Christ était Dieu. Parce que Christ était infini. De telle sorte que la divinité de Jésus-Christ est un élément important dans l'Évangile. Parce que si Jésus est un homme juste innocent, il ne peut pas mourir pour l'ensemble de tous ceux pour lesquels il est effectivement mort. Mais parce que Christ est Dieu, parce qu'il est infini dans sa personne, il peut mourir pour plein de gens, pour beaucoup, comme dit l'Évangile en quelque part. Puis c'est marqué qu'il est mort prédestiné avant la fondation du monde. Bien, tu sais, Dieu avait un plan. Tu sais, on est dans l'éternité, là, puis Dieu a un plan. Puis il sait qu'il va créer l'univers. Il sait qu'il va créer la terre. Puis là, il sait qu'on va tomber dans le péché. Puis il sait qu'il va Dieu envoyer son fils. C'est Dieu, il ne fait pas de l'impro. Hein. Il faut le planifier. Là. Et c'est précieux, son plan. Alors, le sang précieux de Christ, déjà, quand tu l'embarques dans le plan global de Dieu, le plan éternel de Dieu, éternel avant la création du monde, et éternel, bien sûr, après la création du monde. Alors, le sang de Christ est vraiment précieux. Et Thomas Watson, ce qu'on appelle un puritain, ça, c'est des gens qui étaient très, craignaient vraiment Dieu, il dit ceci. Grande fut l'œuvre de la création. On s'entend? Plus grande encore celle de la rédemption. Il en a plus coûté de nous racheter que de nous façonner. L'une était l'émission d'un son. Dieu dit, et la chose fut. Et l'autre, une effusion de sang. Le prix de la mort de son propre fils. Le plan éternel de Dieu a été drôlement plus dispendieux, cher, ou je ne sais pas comment dire, mais clairement, sans mépriser, frères et sœurs, la beauté et la création, mais pour nous racheter, ça a été pas mal plus compliqué. Le prix est immense. Alors, troisième point, pour garder notre espérance vivante, on doit vivre dans l'amour, en vivant l'amour qui en découle. Et là, on reprend notre lecture à partir du verset 22. Verset 22, donc, jusqu'au verset 25. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment, non, aimez-vous superficiellement. » Merci de ta réaction. Je vais te donner 5 piastres en sortant. Alors, ardemment, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi? Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, et là il fait un contraste, on n'ira pas profond là-dedans, mais il fait un contraste, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole, et cette parole est celle que vous avez, qui vous a été annoncée par l'Évangile. Je vous propose quelques versions modernes comme parole vivante, qui n'est pas la meilleure version pour trancher les doctrines, mais qui est une version intéressante pour comprendre certains textes qui sont, des fois on les lit depuis 25 ans, puis ils sont obscurs encore, ou on ne les a pas tout à fait bien compris. Et on lit une version comme ça, puis on se dit, « Hey, c'est vrai, c'est exactement ça que ça dit, mais je ne l'avais pas saisi autant. » Alors, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir des fois des traductions à notre... Moi, j'ai toujours ma Bible, Master Bible, c'est dans le sens que ce n'est pas la meilleure, mais c'est une bonne seconde 79. Et je l'apprécie beaucoup. Et j'ai toujours cette Bible ouverte-là. Je compare toutes les autres versions, même Darby, avec cette Bible-là. C'est ma Bible référence. Hein? Mais ce n'est pas une mauvaise idée de lire autre chose. Alors, dans Parole vivante, c'est dit, « Par obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu en don un amour fraternel prêt. » Ou encore dans Darby, Bible référence absolue, hein, « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité pour que vous ayez, en parenthèse, une affection, hein, pour la raison pour laquelle, hein, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie. » Et j'ai encore le François Courant que je vous propose dans mes mots, et je ne l'ai pas au tableau, là, mais « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, afin de rendre possible une affection fraternelle en toute sincérité. » Je n'ai pas tellement de dons pour traduire, mais je pense que là, c'est la pensée, elle est juste là, parce que confirmée avec d'autres traductions. Alors, ceux qui ont purifié leur âme, ceux qui sont sauvés, peuvent maintenant aimer pour de vrai. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça veut dire qu'on peut aimer pour de vrai, contrairement au monde qui, eux, ne peuvent pas vraiment aimer pour de vrai. Puis là, moi, des fois, là, je vous dis ça, là, de la misère à me croire. Bien, c'est parce que je trouve que dans le monde, des fois, il y a des choses extraordinaires qui se font. Je vous ai parlé de la gang de hockey, là, tu sais, les jeunes ukrainiens, il y avait un beau sentiment de solidarité. C'était vraiment touchant ce que j'ai vu. C'est juste une nouvelle, mais tu sais, le monde est capable de faire des belles choses. Mais le chrétien est capable d'aimer pour de vrai. Selon ce qu'on lit dans les Écritures. Avoir un amour fraternel, sincère, puis de s'aimer ardemment. Dans ces versets, il y a une réponse à trois questions fondamentales que peut-être qu'on n'a pas vues comme ça. Mais d'abord, quand les croyants ont reçu cette capacité d'aimer? Bonne question. Deuxièmement, qui les croyants doivent-ils aimer? Une méchante bonne question, vous allez voir. Et finalement, comment les croyants doivent-ils aimer? Alors, on commence avec la première. Quand les croyants ont-ils reçu cette capacité d'aimer? Bien, clairement, au verset 22, ça dit que c'est là qu'on a reçu le don d'aimer. Hein? On a vu les différentes traductions qu'on pouvait avoir. Et clairement, théologiquement, c'est au moment où on reçoit le Saint-Esprit et c'est le moment où on se convertit. OK? Un inconverti, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, ne peut pas aimer vraiment. Puis là, je ne suis pas en train de dire que nous autres, on est super bons. Je suis en train de dire que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui peut nous permettre d'aimer pour de vrai. Et l'apôtre Paul va dire dans Romains 5, 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Par quoi? Pardon? Le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu, si Dieu est amour, eh bien, on a quelque chose qui nous a touchés profondément lorsqu'on est croyant. Et par la vertu, j'insiste, par la vertu du Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vraiment conduit nos vies, on est capable de pardonner, on est capable d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Puis là, je ne suis pas en train de prétendre que j'ai la solution, puis moi, je vais vous montrer comment. On s'entend qu'on lutte tout avec ça parce qu'on a notre chair qui a des désirs contraires. Hein? C'est dans mes poches. Contraires à ceux de l'Esprit. Alors, il y a une lutte à livrer, mais il y a une capacité. Puis moi, quand quelqu'un me donne la capacité, quand quelqu'un me donne les outils, je me sens encore plus cheap lorsque je ne le fais pas. Alors, on a raison des fois de se sentir cheap comme chrétien lorsqu'on pense qu'on a été capable de maintenir un conflit des jours, des semaines, des mois, des années. Ça exige, j'en ai vu, à scandaliser un cheval. Ensuite, qui les croyants doivent-ils aimer? À qui Pierre s'adresse lorsqu'il écrit son épître? Aux croyants. Et ça, là, on l'échappe des fois quand on lit la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Et le monde l'applique à large. Mais quand Jésus dit ça, il dit ça à ses disciples. Comme il est ressuscité, on a vu ce matin, puis il s'est présenté que seulement à ses disciples. Mais le « aimez-vous les uns les autres », c'est à ses disciples. Donc, ici, Pierre s'adresse aux disciples. Parce qu'il dit, c'est Paul, pardon, qui dit dans l'Épître à Tite, chapitre 3, verset 3, il dit, nous autres, là, avant d'être convertis, avant d'être capables d'aimer, on se haïssait les uns les autres. C'est Paul qui dit ça. Digne d'être haï, puis se haïssant les uns les autres. C'était ça la recette secrète du colonel François. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer les non-croyants, parce qu'on doit, dans un sens, aimer les non-croyants, parce qu'ils ont besoin de l'Évangile, puis Dieu les aime, parce que Jean 3, 16, il se dit quand même que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hein? On est appelé à aimer le monde, mais pas du tout de la même manière qu'on aime les chrétiens. Et quelqu'un m'avait déjà fait remarquer, François, où tu vois dans le Nouveau Testament l'idée qu'il faut aimer les non-croyants. Il y a même des versets qui disent qu'on devrait les haïr. Puis je suis en train de dire qu'il faut les haïr. Mais je veux juste dire que aimer les croyants et aimer les incroyants, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et là, rappelez-vous, bien, on va le lire ensemble, Jean chapitre 13. le verset 34, Jean chapitre 13. Le verset 34, pardon. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples ici encore. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À qui il parle? Aux disciples, c'est important. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et pour ceux qui auraient un doute à savoir à qui il parle, regardez le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour entre les frères et sœurs, j'ai su, Mme Ginette, puis honnêtement, je ne sais plus trop c'est qui, mais j'aimerais ça qu'on me le dise après, je ne sais pas ce qu'elle a eu, en tout cas, bref, est mal en point, OK? La solidarité qu'on devrait avoir, qui semble que vous avez avec elle, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Et quelqu'un qui a affaire à des chrétiens, qui rentre dans une église ou qui a affaire, peut-être, commerce avec un non-chrétien, ces personnes-là devraient vite voir, « Ah, eux autres sont spéciales. Eux autres, là, ils ont l'air à s'aimer. » Puis là, lui, j'ai su que ce gars-là, il a eu un conflit avec l'autre. Là, puis là, j'ai entendu parler comment ils se sont demandé pardon puis ils sont devenus des bons amis plus que jamais. Comprenez-vous? T'sais, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de chicane, je dis juste que les choses devraient se régler à cause de l'amour qu'on a les uns avec les autres. Et ça, c'est un méchant gros témoignage extrêmement puissant. Les gens, là, il y en a, moi, j'ai déjà entendu des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont dit, quand j'ai vu comment les chrétiens s'aimaient, là, je voulais ça, cet amour-là. Moi, c'est pas ça que j'ai expérimenté dans ma vie. C'est juste de la jalousie, puis des ci, puis des ça. T'sais. Puis là, t'sais, eux autres, là, ils ont l'air à vraiment être en amour les uns avec les autres. Puis ils ne semblent pas parfaits. C'est ça qui est fun. Ils ne sont pas parfaits, puis ils s'aiment pareil. C'est fort, ça, comme témoignage. Et là, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire aimons-nous à mort, là, puis l'Évangile va se répandre. C'est pas ça que j'ai dit, hein? Je n'ai jamais dit ça. Ça n'empêche pas la nécessité d'annoncer l'Évangile. C'est deux aspects différents, mais quand on annonce l'Évangile puis qu'on s'aime les uns les autres, le message porte. Il y a de la crédibilité là-dedans. C'est du solide et tout sert à la gloire de Dieu. Je vous laisse deviner le message qu'on envoie lorsqu'on n'aime pas comme on devrait aimer. On prend le nom de Dieu, on invoque le nom de Dieu, on prétend suivre Dieu, on prétend être ses porte-paroles, ses ambassadeurs, puis on a un message contraire à ce que lui, il veut pour nous. Comprenez-vous l'impact et la gravité de ne pas aimer, de ne pas s'aimer les uns les autres? C'est grave, c'est sérieux. Puis comment les croyants doivent-ils aimer? C'est la troisième question. Bien, ils doivent s'aimer avec un amour sincère, sans hypocrisie. Aïe, aïe. Là, moi, là, je trouve ça un peu compliqué parce que c'est dur d'aimer sans hypocrisie. Comment souvent, encore récemment, quelqu'un me disait, il y a eu un conflit professionnel, puis la personne, là, elle doit... La situation de cette personne-là avec laquelle elle a eu un conflit, là, bien là, elle doit voir cette personne-là de temps en temps. Puis là, elle me disait, bien là, tu sais, moi, regarde, j'en parle pas, je fais rien, tu sais, je veux être gentil avec elle. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Je ne sais pas, pour être honnête. Mais aimer sans hypocrisie. Tu sais, si, mettons, j'ai un conflit avec quelqu'un, puis je fais juste semblant de rien, puis je sais qu'il y a quelque chose entre nos deux de pas réglé, moi, je pense que ça, c'est assez clair. Ça peut pas fonctionner. On ne peut pas aimer sans hypocrisie. Et sans cire, c'est-à-dire sans masque, c'est l'idée d'être sincère. Hein? Le sincère vient de ce principe-là où dans les pièces de théâtre, on mettait un masque et c'était fait avec la cire. Alors, le mot vient de sans cire, de telle sorte que si je mets un masque, je suis bien de bonne humeur, moi, aujourd'hui, mon petit Mario. Ben oui, je t'aime, mon petit loup, tu sais. Puis dans le fond, là, je lui en veux à mort parce que j'ai vendu un auto puis il n'a pas fini de me payer, puis il me tête tout le temps. Puis... Non, mais comprenez-vous, je veux dire, ça manque de sincérité. On met un masque. Et ça, on ne peut pas mettre de masque. L'amour doit être sincère. Il ne faut pas y aller avec la mascarade. On ne peut pas y aller avec un masque. Ça mérite un moment de réflexion, vous savez, parce que Jésus a dit, « Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, prends ton offrande, puis offre-la à Dieu. » Et il y en a qui sont retard. Hey, on est retard. Là, il y en a qui disent, « Check bien ça. Moi, je n'irai pas à l'église. Je ne prendrai pas le repas du Seigneur. Comme ça, je suis correct. » C'est pas ça que ça dit. Ça dit, « Laisse-le ton offrande. Va te réconcilier, puis ensuite, fais quoi? Offre ton offrande. » Et le Seigneur dit ailleurs, par Paul, de ne pas se coucher sur notre colère. Autrement dit, moi, là, dans ma vie chrétienne, je vais vous avouer, j'ai deux, comment on dit ça, des moments butoirs dans ma vie. Le premier, c'est la noirceur. C'est que si j'ai eu un conflit avec ma femme ou quelqu'un d'autre, je sais que je ne devrais pas me coucher sur ma colère. Alors, tout de suite en partant, tous les jours, on a un deadline. Puis, j'en ai un autre deadline. C'est dimanche matin, quand je prends le repas du Seigneur. C'est un autre deadline, parce que là, ça ne me tente pas, moi, d'amener mon offrande au Seigneur. Mon offrande d'adoration, pas juste l'argent. C'est, oh, je ne donnerai plus mon offrande, je vais être correct. Non, non, non. On offre une offrande au Seigneur à chaque dimanche matin. Et le Seigneur nous dit de te réconcilier avec ton frère, puis dis bien avec ton frère. Puis ce qui me dérange le plus dans ce verset-là, savez-vous, c'est quoi? Si ton frère a quelque chose contre toi, pas si tu as quelque chose contre ton frère, alors les deux, on est poignés. Parce que si un frère a quelque chose contre moi, je dois le régler. À plus forte raison, si moi j'ai quelque chose contre lui, il faut aussi que je le règle. Alors le Seigneur, il nous a bien équipés là, tu sais, pour qu'on obéisse, parce que sinon... ça ne va pas bien. Et là, il est question de s'aimer ardemment les uns les autres. Ça veut dire, littéralement, c'est le même mot que pour étirer un muscle. Tu sais, maintenant, quand on fait de l'exercice, ils disent, là, ton exercice là, elle va être efficace si ça fait mal. Parce que quand il y a de la douleur dans le muscle, c'est parce que le muscle s'étire, il se manifeste. Je ne sais pas trop, je ne connais pas ça, là, mais on dit ça. Et... ça veut dire aller loin, aller jusqu'à l'extrême limite. Ardemment, ça veut dire vraiment, je dirais, c'est le contraire de superficiellement. Comment? Bien, ça fait-tu mal pardonner à quelqu'un qui vous a fait quelque chose? Qui vous a fait peut-être perdre? Mettons, là, c'est de l'argent. Là. Moi, je connais un frère là, qui a eu longtemps, qui a eu de la misère à l'avaler parce qu'un employé chrétien l'avait littéralement volé. Pas volé dans le cash, mais voler des clients. Il est parti avec, puis il a fait, avec certains d'entre eux, pas mal de cash. Ça fait mal, ça, quand le gars, il a presque fait faillite plus tard. Ça fait mal. C'est dur à avaler. Mais c'est le genre de souffrance que le Seigneur nous demande. Pourquoi ne souffrez pas quelques injustices, nous dit l'apôtre Paul, c'est vrai? Alors, moi, en ce moment, là, c'est plus de la théorie, là. Pour moi. Il n'y a personne qui m'a volé 100 000 piastres. Ça a passé proche quand j'ai fait construire ma maison, mais ça, c'est une autre histoire. Pardon. John MacArthur, il dit ceci, « L'amour dont il est question dans cette est cet amour fruit de la volonté plutôt que des émotions, provoqué non par la beauté ou le caractère désirable de son objet, mais par la noble décision de son auteur. » Autrement dit, je ne te demande pas si ça te tente, je te demande de l'aimer, même si ça ne te tente pas. Je te demande de décider de l'aimer, même si ça ne te tente pas. Et entre vous et moi, pour un couple, c'est une méchante bonne idée d'appliquer ça. Dans ta famille, C'est une méchante bonne idée d'appliquer ça, surtout si, comme la plupart d'entre nous, on a des gens inconvertis dans nos familles. Et c'est tellement génial pour l'Église. Tellement génial. On veut-tu avoir la bénédiction de Dieu dans notre Église? Mais pardonner, aimer comme on doit être aimé, ardemment, à part de ça. De tout votre cœur, sans réserve, sans condition. Et finalement, le quatrième point, en appliquant comment garder notre espérance, en appliquant les moyens pour que ça marche. Et là, on verra. Je vois que bon, c'est l'heure, bien raide. On va arrêter cela, je vais conclure. C'est beau, excusez-moi, hey, ça allait bien. Puis il n'y a pas personne de parti en plus. Vous êtes vraiment poli. Comment? Non, je veux respecter quand même. Là. Vous allez, ouais, c'est ça. Non, mais rapidement, là, c'est, il faut sortir nos vidanges. Hein? Carrément, dans les versets 1 à 3, là, rejetant toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, les spirituels et purs, et croissez pour le salut. Alors, sortez nos vidanges, et si on veut être rempli de quelque chose de positif, il faut sortir nos vidanges, c'est obligatoire. Et il y en a toute une série de vidanges qui peuvent être mentionnées que le texte nous propose. Et bien se nourrir, désirer comme des enfants nouveau-nés. Et là, j'aimerais ça juste souligner une vérité sur ce verset-là. Ça ne dit pas « vous êtes des enfants nouveau-nés, c'est normal que vous désiriez ardemment vous nourrir de la parole ». Ça dit « comme des enfants nouveau-nés ». Autrement dit, même si ça fait 20 ans que tu es chrétien ou ça fait 40 ans que tu es chrétien, tu devrais avoir ce désir-là. Et non seulement tu devrais avoir ce désir-là, mais c'est un commandement. Il ne dit pas « vous devriez peut-être ». Non, « désirer », il y a un « z ». Ça, c'est l'impératif. C'est super sérieux. Alors, je conclue. Comment garder notre espérance vivante en vue de son apparition? Ça, c'est le sujet du message que j'ai apporté aujourd'hui, basé sur, bien sûr, la première épître de Pierre, les textes qu'on a lus, qu'on a vus ensemble. Par une vie changée, pas comme avant, hein? Pas comme avant, une vie à l'image de celui que nous servons, une vie sainte, en prenant au sérieux le prix qui a été payé, le sang précieux de Christ. Dieu a mis le paquet. Imaginez maintenant si on méprise, comme dans l'Épître aux Hébreux, hein? Mépriser à quel sacrifice il reste pour ceux qui méprisent le sang de Christ. En ayant maintenant la possibilité d'aimer, nous devons nous aimer pour de vrai. Puis merci Seigneur parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Puis en sortant les vidanges, nos vidanges de nos vies, pour manger plutôt au buffet de sa parole. C'est bon? Alors, comme notre ami Joe, quand c'est difficile, quand ça fait mal, quand il fait chaud, quand il fait froid, on doit garder le focus si nous voulons garder vivante notre espérance. Puis en passant, notre espérance à nous, chrétiens, elle est bien plus merveilleuse que l'espérance de Joe avec son voyage dans le sud. Hein? On ne parle pas de la même affaire. C'est bien plus stimulant que son voyage dans le sud. On a une espérance formidable d'être un jour dans la gloire, associé à la gloire du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour cette espérance vivante. Merci, Seigneur, de nous aider à faire ce qui est nécessaire pour qu'on puisse te glorifier là-dedans. Puis, Seigneur, je pense qu'avec mes frères et sœurs ici, on a tous besoin d'implorer ton pardon parce qu'on est loin d'être à la hauteur. Comment souvent, Seigneur, on a gardé dans nos cœurs déjà certains sentiments ou ressentiments. Seigneur, c'est pas chic quand on regarde vraiment ce qu'on est capable de penser, de dire, de faire. Mais Seigneur, d'abord, merci, pour ton pardon. Mais Seigneur, on implore l'assistance de ton esprit pour que nous puissions vivre comme tu veux que nous vivions. Puis que notre espérance, Seigneur, l'espérance de la gloire, bien, ça puisse jamais, jamais quitter ni matin, ni midi, ni soir, Seigneur, qu'on garde toujours les yeux fixés sur le chef et les rémunérateurs de la foi, comme c'est écrit, pour qu'on puisse honorer et bénir vraiment ton nom et être des lumières dans ce monde de ténèbres. Même ce témoignage d'amour franchement solide entre les chrétiens, Seigneur, aide-nous à être vraiment de ceux et celles qui font exactement ce que tu veux qu'on fasse. Remplis-nous de ce désir et merci maintenant pour bénir cette assemblée. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Je pense à cette dame, Ginette, je pense son nom, qui est mal en point, qui a besoin vraiment de ta grâce. On prie que tu aides aux frères et sœurs de bien l'entourer, Seigneur, qu'elle puisse même être en cela un témoignage à ta gloire, Seigneur, là où elle est maintenant. Et c'est dans le nom de Jésus et pour sa gloire qu'on prie ensemble. Amen.